Écriture dessinée.
Bonjour Bruno.
Bonjour. Bonjour Marc. Alors, oui, il y a des grands moments de solitude quand vous tournez la clé de votre voiture et là, rien ne marche. Et ben c'est ce qui m'est arrivé, donc je suis en retard, je galère. Un des deux invités d'aujourd'hui me laisse des SMS et on va régler ça tout de suite. Alors, l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, c'est un moment toujours important pour beaucoup d'auteurs qui ont développé une œuvre conséquente, aussi bien des scénaristes et dessinateurs que des auteurs-dessinateurs, et qui vont rencontrer leur savoir-faire, leur écriture, et créer ainsi de nouveaux projets narratifs. C'est le cas de ce livre « Les papillons ne meurent pas de vieillesse » qui est le fruit d'une collaboration entre Frédéric Bézian et Mats le scénariste. Ils sont... Frédéric Bézian est auteur, dessinateur, donc Mats scénariste. Et là, il y a vraiment une collaboration assez inédite qui s'est mise en œuvre. Et on a une façon d'imaginer d'autres espaces narratifs, d'autres façons de raconter, de représenter des histoires avec ce thriller dont l'objet principal est un papillon qui a disparu et qu'on va retrouver très loin de sa zone où il habitait, ou la zone qu'il occupait. Et donc, il y a des recherches qui sont faites autour de ce papillon, et c'est pas seulement des recherches d'entomologistes, mais c'est aussi celles de multinationales qui, pour elles, l'écosystème, le monde environnant et les transformations climatiques sont des mots grossiers. Nous serons donc avec Frédéric Bézian et Mats pour parler de ces papillons qui ne meurent pas de vieillesse. On commence par Mats tout de suite. Après ce premier morceau musical, je vais virer les brèves. On en parlera sans doute à la fin, mais on retrouve rapidement le direct. À tout de suite. Merci Mats d'avoir été patient. J'ai eu un grand moment de solitude avec la clé de ma voiture qui ne produisait aucun effet. Et donc ça a été un peu bouleversant. Quelques mots d'introduction sur votre carrière. L'œuvre de Mats démarre en 1990 avec une première collaboration avec Jean-Christophe Chosy. C'est Bayou Joe, publié par Futuropolis, la première version de Futuropolis. Depuis, le scénariste étoffe sans cesse les territoires de son écriture, crée des personnages dont l'épaisseur les décale des autres. Ainsi, le tueur avec Luc Jacquemon devient, pour cette raison, une de ses séries les plus importantes. Il adapte avec brio des romans comme Nuit de fureur de Jim Thompson ou Le Dahlia noir de James Ellroy. Et puis il y a aussi des biographies comme celle de Julius Popper, le dernier roi de la Terre de Feu. Il réalise des traductions, corps et âme, balle perdue, diversifie les genres de son écriture, en plus du polar où il excelle, avec ce remarquable Vie volée, dessiné par Mayalen Gust. Il multiplie aussi les rencontres d'autres univers graphiques. Chosy, Gust, je viens de la citer, Jean-Marc Rochette, et puis tout dernièrement avec l'univers graphique de Frédéric Bézian. Les papillons ne meurent pas de vieillesse, c'est une nouvelle collaboration. Donc une mise en image d'un thriller entomologiste où un papillon disparu est au centre de différentes recherche parfois inavouable, et la mise en image de Frédéric Bézian est aussi ainsi un autre univers graphique dont Mats se glisse parfaitement dans toute la dimension et toute l'intensité de la mise en image. Nous sommes avec Mats pour qu'il nous confie ses processus d'écriture sur ces papillons qui ne meurent pas de vieillesse. Bonjour Mats.
Bonjour.
Encore merci et avec mes excuses pour ce retard.
Non, pas de problème.
Alors,
on va mettre un peu de Lionware.
C'est ça. Donc, comment c'est mis en place à la fois le récit? Il y a une dédicace de Frédéric Bézian qui mentionne le nom de la personne qui vous a mis sur la piste de cette thématique. Et comment s'est fait cette rencontre avec Frédéric Bézian?
Alors, avec Frédéric, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on est pas loin d'être voisins dans l'Aude. Vous savez, à Revel, comme dans la BD. Et moi, je suis dans l'Aude, et lui, il est donc à Revel, de l'autre côté de la Montagne Noire. Mais donc, on se connaît depuis longtemps, et puis, enfin, moi, je lisais ses BD, et puis un jour, l'idée de faire quelque chose ensemble est née. Alors, effectivement, on a entendu parler de cette histoire d'entomologiste français qui a disparu en Amazonie. Mais il se trouve que moi, de mon côté, je suis un passionné absolu de papillons depuis très très longtemps, depuis mon enfance. J'ai un peu de collection, je chasse un petit peu les papillons de temps en temps. Et donc j'ai toujours eu envie de faire une histoire autour des papillons, et notamment cette histoire de papillons disparus, c'est une idée qui me trottait depuis longtemps dans la tête. Et en fait, avec cette anecdote de l'entomologiste disparu, les deux, en fait, réunis, ont déclenché cette idée de scénario. Et tout naturellement, j'en ai parlé à Frédéric, et ça faisait un moment qu'on se disait que ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble, d'autant que les gens ne s'y attendent pas, en fait, à ce que lui et moi travaillons ensemble, parce qu'on n'est pas tout à fait du même genre de BD, en fait, si on peut dire, mais c'est une distinction très superficielle, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je crois qu'il n'a pas détesté toutes mes BD non plus, donc voilà, cet album c'est mon 70e album, donc c'est une sorte d'anniversaire en fait.
C'est pas peu dire. Alors Mats, comment se passe l'écriture du scénario? Comment procédez-vous?
Alors moi je procède toujours un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que, alors évidemment, il y a des. Avant de démarrer, on discute pas mal, le dessinateur et moi, de ce qu'on veut faire, de la façon de procéder, mais au bout du compte, moi j'écris toujours un scénario assez détaillé, avec comment dire, page par page, strip par strip et case par case, avec une description des cases et les dialogues. Mais c'est ce qu'on appelle le découpage. Mais le découpage, en fait, c'est très, très indicatif. Le dessinateur, c'est une base, si vous voulez, c'est une base narrative qui permet au dessinateur d'avoir surtout, je pense, pour moi et pour le dessinateur, une idée du rythme et de la quantité de textes et de dialogues par page. Ensuite, le nombre de cases et la mise en scène, ça, pour moi, c'est vraiment le domaine du réalisateur. Si vous voulez, le jour où peut-être sur une page, il n'a pas tellement d'idées, il peut se fier à mon découpage. Mais si s'il a envie de faire autrement, il a évidemment toute latitude pour mettre en scène une page ou une séquence comme il l'entend. Sur cet album-ci, en discutant au démarrage avec Frédéric, Frédéric avait cette idée très précise que vous avez sans doute remarqué, qui est que la première et la dernière page sont des symétriques. On commence avec le vol fragile d'un papillon, et on termine avec le vol fragile d'un papillon. Il y a une sorte de boucle, en fait. Voilà, donc ce sont des idées comme ça qu'on peut échanger et que moi j'intègre dans mon écriture du découpage. Donc c'est toujours. Et puis en cours de route, évidemment, il y a des ajustements, il y a des changements, mais marginalement. Et puis souvent aussi, quand on termine un album, on se rend compte qu'il y a des textes qui peuvent sauter. Parce que si le dessin fait le boulot, il n'y a pas besoin du texte ou du dialogue. Donc voilà, c'est tout un processus qui évolue pendant tout le long de l'exécution de l'album.
Alors Mats, vous avez créé des personnages qui sont restés des personnages phares de la bande dessinée. Je pense au tueur, mis en image par Luc Jacquemont. Pour Les papillons ne meurent pas de vieillesse, bon, on a un trio, celui de Camille, entomologiste. Il y a Candido, le rabatteur, et puis la cousine de l'entomologiste qui...
Géraldine,
qui va donc...
C'est un petit peu le personnage central, finalement.
Tout à fait. Et donc... Comment se passe cette écriture des personnages et leur complémentarité, en fait, dans le récit?
Alors, vous voyez, par exemple, sur ce scénario-ci, le synopsis n'accordait pas une telle importance à Géraldine. C'est en écrivant, en développant le scénario, que je me suis... je me suis dit que ce personnage avait un rôle plus important à jouer qu'initialement prévu. Et puis qu'elle avait un caractère qui se dégageait rapidement et qui était très très amusant à manier. Et donc finalement, son rôle a énormément grandi et elle est devenue un peu le pivot de toute l'histoire, puisque c'est elle qui fait le lien entre l'entomologiste qui est un petit peu bougon d'ailleurs. On est à la radio, donc ça se voit pas, mais Frédéric m'a fait la surprise que ce personnage me ressemble un petit peu physiquement.
J'allais vous en parler.
Je ne savais pas, je l'ai vu, je m'en suis rendu compte en voyant arriver les premières pages. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais donc oui, et puis elle fait le lien aussi entre non seulement entre l'entomologiste, avec Candido, le chasseur de papillons, mais aussi avec les gens qui viennent aider. Enfin bon, elle a un rôle tout à fait pivot dans l'histoire et je pense que c'est un personnage qui est attachant, en fait, qui a quelque chose.
Alors, sur donc cette écriture du récit, avant d'aller un peu plus loin sur la façon de le rythmer, de créer l'intrigue, de l'intensifier, est-ce qu'il y a une suite qui est prévue? Parce que le récit pourrait le laisser imaginer.
Alors, c'est une question qu'on me pose de plus en plus souvent, mais a priori, non, c'est un one-shot... j'imagine que si on en vend 100 000, l'éditeur va nous suggérer de chercher une idée pour une suite. Mais pour l'instant, ça a été conçu comme ça, donc Parce qu'on en est là.
Et est-ce que quand Géraldine dit qu'elle poursuivra les auteurs de cette attaque du camp et du territoire où se trouve cette recherche de papillons, ces chercheurs de papillons, qu'elle va poursuivre un peu les multinationales, on pourrait imaginer que ça va déborder vers d'autres...
Oui, on pourrait avoir un tome 2 qui s'appellerait « La vengeance de Géraldine
». Je vois que vous n'allez pas vous laisser faire.
c'est pas toujours. Enfin, on peut toujours développer une histoire. Il y a Candido. Et puis on ne sait pas si. Ah ben non. Même le personnage de l'entomologiste peut être une aventure encore. Il y a différentes pistes narratives avec des personnages qui peuvent encore continuer d'exister narrativement, ça c'est sûr. Ouais.
Sur le rythme du récit, Mats, est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que vous, au contraire, vous essayez à chaque fois de partir de situations plus inhabituelles? Et c'est vraiment le cas avec ce récit, puisque les papillons ne meurent pas de vieillesse. Une sorte de thriller entomologiste qui est plutôt inhabituel.
Oui, non, j'ai pas vraiment de technique ni d'habitude, et surtout j'essaie de pas me répéter. Donc j'essaie de toujours trouver des nouvelles choses, d'expérimenter. Et puis je pense qu'avec Frédéric, c'était le bon moment pour expérimenter des choses. Il y avait aussi cette presque une gageure de trouver de montrer la jungle en noir et blanc, la densité, la moiteur, la touffeur. Donc je trouve que à chaque fois il faut se remettre en question, et souvent j'attaque en scénario en me demandant comment je vais m'en sortir. C'est jamais gagné d'avance, en fait.
Une dernière question, Matt, sur les dialogues. Comment procédez-vous? Est-ce que vous les exprimez à haute voix pour les sentir au mieux? Est-ce que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, vous les relisez une fois que la mise en image est faite pour être au plus près du dessin? Comment ça se passe?
Bah, y a un peu Alors, les lire à haute voix, je le faisais quand j'étais plus jeune. Maintenant, je pense que j'ai un peu mieux le truc en tête et en main, donc ça m'arrive moins souvent, ça peut m'arriver, pour les avoir en bouche et tout ça. Et puis, pour trouver les voix des différents personnages, ça peut aussi servir, parce que il faut que les personnages s'expriment chacun à sa manière, en fait, hein, de manière reconnaissable. Et puis, alors oui, par contre, une fois que l'album est fait, évidemment, il y a une relecture, même plusieurs relectures, et on ajuste j'ajuste les dialogues jusqu'à la fin. Là, si vous voulez, je viens de finir la relecture du prochain album Tango. J'ai changé plein de dialogues dans la dernière relecture. Tout est améliorable tout le temps. Hein. Moi, je cite toujours Borges, qui dit qu'un texte, l'idée de penser qu'un texte est définitif relève soit de la fatigue, soit de la religion. On peut toujours améliorer, et dans la BD c'est formidable parce qu'on peut le faire vraiment jusqu'à la fin, et je m'en prive pas, hein, ça c'est sûr que je traque chaque mot en trop, ou chaque imprécision, ou chaque mot inutile à cause du dessin. Il y a des fois où ça devient le cas, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, ça c'est un processus. Si on me donne une semaine de plus, j'aurai encore des changements à faire.
Merci beaucoup, Mats. On va écouter un morceau de musique et puis on retrouvera nous Frédéric Bézian. Je vais quand même rappeler que L'Or du Spectre, qui est mis en image par Philippe Xavier, sort aussi au mois de mai.
Il est sorti,
c'est ça, je crois, le 9 mai. Donc aux éditions du Lombard.
Absolument. Si vous voulez qu'on en parle un autre jour, vous me le direz.
D'accord. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. L'œuvre de Frédéric Bézian démarre aux éditions Magic Strip avec L'étrange nuit de Mr. Korb. Une œuvre aussi intense par ses récits que par leur mise en image. Frédéric Bézian est certainement l'un des auteurs les plus doués de sa génération. Ses livres proposent en permanence de nouvelles représentations, un sens de la mise en scène créant des émotions de lecture rares. Il collabore avec Noël Simsolo, par exemple, le scénariste et critique de cinéma. Ainsi, les trois tomes de Docteur Radar rappellent que le dessin de Frédéric Bézian se nourrit de l'univers fantastique et symbolique, de son goût pour l'architecture et sa représentation, ainsi que pour la mise en scène dessinée, qui est véritablement un champ de création. La première collaboration avec Mats mène Bézian vers d'autres territoires, celui de la jungle touffue, de sa moiteur, de l'épaisseur de l'air. Aussi une jungle des entomologistes, des tribus autochtones et des pourvoyeurs de destruction et de mort. Un papillon est à l'honneur et une nouvelle fois, le lecteur est emmené vers d'autres émotions, loin des attendus si fréquents. Nous sommes avec Frédéric Bézian pour qu'il nous révèle ses questions de dessin. Bonjour Frédéric Bézian.
Bonjour.
Alors, nouvelle collaboration, de nouveaux territoire graphique, la jungle, c'était quand même pas vraiment un territoire exploré préalablement dans votre œuvre.
Alors non, on peut pas dire. c'est même, je crois, la façon la plus extrême pour moi de sortir de ma zone de confort. Cela dit, c'était le cas pour tous les deux, parce que même si Mats a tendance parfois à faire écrire des histoires qui se déroulent aux quatre coins du monde et des aventures plus ou moins tordues et plus ou moins exotiques, on n'avait pas vraiment l'habitude ni l'un ni l'autre d'écrire de construire des histoires de ce genre. Donc on s'est retrouvé en terrain inconnu, autant lui que moi. Lui un peu moins que moi, puisqu'il est déjà allé faire un tour en Amazonie, mais moi pas, effectivement.
Alors, justement, mettre en image la jungle avec toutes les sensations qu'on peut y ressentir, comment s'est passée cette mise en image, Frédéric Bézian ?
Oh, il y a eu tout un faisceau de choses différentes. Il y a eu le fait que pendant un temps, je savais même pas si j'allais faire la chose en noir et blanc ou en couleur, et que selon le cas, il fallait quand même que je fasse effectivement passer la chaleur, les trous de lumière à travers les arbres, le faire sentir les moustiques, même si je les dessine pas, des choses comme ça. Mais je savais pas trop avec quels moyens. Et en fait, je me suis amusé, j'ai essayé de trouver quelque chose avec la lumière ou le manque de lumière, justement. Les ombres, les trous de lumière à travers les arbres, ce qui est assez important, puisqu'il y a quand même une scène où on voit tout un groupe de papillons se regrouper autour de rayons de lumière qui passent à travers les arbres. Et voilà, dans la mesure où je suis toujours intéressé par les manques, que ce soit dans la narration ou dans le dessin, l'inachevé ou ce qu'on ne voit pas, comparé à ce qu'on voit, etc., j'ai joué avec ce qu'on ne voit pas, avec des manques. J'ai joué avec la lumière est très contrastée et les trous la lumière parfois tellement violente que en fait le dessin se perd dedans, on le perd, on a l'impression qu'il n'est pas fini. Et voilà quoi, c'est une manière de faire à travers un détail faire venir tout le reste quoi. Mais bon, j'attends des retours de, je sais pas, d'explorateurs ou de randonneurs qui ont été faire un tour en Amazonie pour savoir si j'ai touché juste ou pas.
Bon, à mon avis, il n'y a peut-être pas besoin d'attendre les leurs, mais le choix du noir et blanc donc, a finalement été opté et les papillons vont apparaître donc, en couleur. Il y a une trame grise aussi qui va être assez importante, notamment pour que les rayons de lumière contrastés très blancs vont vraiment bien être saillants. Qu'est-ce qui a vraiment déterminé ce choix ? Parce que dans la couleur, c'était quoi ? C'était du bruit en plus, et que là, le noir et blanc apporte au contraire une façon de rester centré sur les scènes et sur les lieux.
Ouais, là aussi, il y a plusieurs raisons. Il y a de toute façon une raison que je traîne depuis longtemps, c'est-à-dire que je veux toujours assumer, quel que soit le style graphique que j'utilise, quel que soit l'univers, je veux assumer pleinement le côté artificiel de la bande dessinée et son origine qui vient de la presse. Donc effectivement, trait, point, tache et l'utilisation de la trame, qui est du trait ou du point, ça c'est une chose. Ensuite, je ne me vois pas, même pour recréer des atmosphères comme celles dont on parle depuis deux minutes, là, dans la forêt amazonienne, je ne me vois pas utiliser l'aquarelle ou des choses comme ça, des bains de couleurs plus ou moins nuancées. C'est pas mes armes, c'est pas du tout mon vocabulaire. Et puis, la troisième chose, c'est que, très honnêtement, pendant les 15 premières pages, ou quelque chose comme ça, je savais pas trop où j'allais de ce côté-là. Et c'est en discutant avec notre éditeur, Nejib, qu'on a eu l'idée comme ça qui nous a traversé de ne faire que les papillons en couleur, ou tout ce qui les concerne, c'est-à-dire les pages documentaires, les fausses pages d'encyclopédie à l'ancienne, et voilà, et jouer sur le noir et blanc et les taches de couleur qui apparaissent de temps en temps, parce qu'après tout, le véritable héros là-dedans, c'est eux, hein. C'est les papillons, donc autant les mettre en valeur à fond. Et voilà, on a joué là-dessus.
Frédéric Bézian, il y a tout au long de votre œuvre un attachement au découpage, à la mise en scène, à cette possibilité de raconter, mais avec une infinité de solutions et de possibilités. Comment ça s'est passé pour Les papillons ne meurent pas de vieillesse, puisque on a une mise en image qui va varier assez facilement. On peut être dans du 5 bandes, dans du 4 bandes. Il y a ces fautes planches encyclopédiques, il y a page et double page, avec par exemple celle sur l'incendie de la jungle. Il y a à chaque fois une grande variation. Comment travaillez-vous cette mise en scène, Frédéric Bézian ?
Ben justement, c'est que je ne travaille pas en termes de mise en scène. Je fais de la mise en page et pas de la mise en scène. C'est-à-dire que, là aussi, fidèle à des principes sur lesquels j'ai mis le doigt il y a déjà quelques années maintenant, j'essaye de faire en sorte que le résultat final de mes pages, de mon bouquin, etc., soit infaisable autrement. C'est-à-dire, en gros, pour parler plus prosaïquement, inadaptable. On ne peut pas en faire autre chose sans le dénaturer totalement, ou sans le repenser complètement. Donc là, si je fais de la bande dessinée, ben j'utilise le médium à fond, autant que possible dans mes modestes moyens, pour ce qu'il est. C'est-à-dire que j'utilise, je joue avec le gaufrier, je joue avec les ellipses, avec le fait que j'ai les trois quarts du temps, sauf la première et la dernière page, j'ai toujours deux pages en vis-à-vis. En l'occurrence, là, je me suis amusé au fait que, par exemple, le geste tout léger d'un papillon qui, parfois, on a tous vu ça, s'est posé quelque part, a les ailes fermées, les rouvre et les referme. Dans un geste très très délicat. Et en fait, j'ai essayé de faire la même chose avec un livre entier, qui, une fois ouvert ou fermé, ressemble à un papillon. Et du coup, ma première et ma dernière page sont les mêmes, mais inversées. Comme si, entre deux ailes, on avait vécu toute une aventure, on avait ouvert le bouquin pour le lire, on le referme, comme un papillon qui s'ouvre et qui se referme. Tout ça, ce sont des manières de penser à l'objet finalisé et tel que c'est, de telle façon que ça soit infaisable autrement. Je ne veux pas que ça soit du cinéma dessiné, je ne veux pas que ça soit du cinéma sur papier. J'essaye d'utiliser le médium pour ce qu'il est et autant que possible. Au maximum. Je ne suis pas Chris Ware, mais effectivement, je pensais beaucoup à certains travaux de Chris Ware quand j'ai commencé l'album. J'ai continué, j'ai prolongé certaines expériences que j'avais menées sur Dr. Radar, justement, où je m'étais amusé avec des... par exemple, le tome 1, où tous les gaufriers de toutes les pages sont symétriques. On peut les couper en deux selon une ligne verticale. Il y en a d'autres où j'ai joué sur la claustrophobie avec des toutes petites cases et de temps en temps des grands souffles avec une case énorme pour faire respirer d'un seul coup. Voilà, ce sont des jeux avec les moyens que j'ai à ma disposition. Je ne pense pas au fait que j'ai une caméra à la place d'un crayon. J'ai un crayon et j'ai des cases et j'ai deux pages face à face. Donc je joue avec.
Comment se travaillent vos personnages, Frédéric Bézian ? Comment vous les appropriez ? Quelle complicité vous avez avec eux ? Il y a les trois personnages principaux, Candido, Géraldine, Camille, l'entomologiste. Il y a la tribu des autochtones, il y a les mercenaires qui sont là pour les déloger. Et donc un certain nombre de scènes d'action, il y a des gestuelles très fortes pour chacun des personnages très spécifiques. Comment les travaillez-vous ?
Faut faire un peu de... Je sais pas, il y a peut-être... Il y a un mélange de plusieurs choses là aussi. Il y a un mélange d'une espèce d'empathie. Il faut faire un peu le comédien sur les bords. Il faut s'imaginer un peu comment, à partir du moment où on a les dialogues, il faut se rendre compte que les personnages ne parlent pas tous de la même façon, donc quel geste on fait quand on dit telle phrase, quel genre de caractère peut avoir l'entomologiste par exemple, même si je me suis amusé évidemment à faire la surprise à Matt, l'entomologiste, j'y ai mis sa tête. Mais il l'a découvert en voyant les planches, parce qu'il me parlait de les caractéristiques plus ou moins psychologiques qu'il m'avait décrites pour ce personnage dans le scénario. Je trouvais que ça lui correspondait pas mal au niveau de l'âge, du physique, etc. Donc j'ai mis sa tête, carrément. Mais du coup, comme on se connaît, je sais un peu quel genre d'attitude il peut avoir, quel genre de position il peut avoir, quel genre de geste il peut faire. Et un peu pareil pour les autres, les gros méchants, l'espèce de milice privée qui se balade dans la forêt, qui tire un peu sur tout le monde, c'est des robots vivants, quoi. Je les ai pratiquement tous faits sur le même modèle. Ils sont tous habillés pareil, avec des pantalons treillis et des t-shirts noirs, et ils sont tous quasiment rasés. J'en ai construit une espèce d'entité multiple, quoi. Évidemment, je ne cache pas que le plus difficile, c'est pour Géraldine. Parce que je ne suis pas une femme. Parce que c'est pas... C'est pas. Il faut que j'observe. Je me souviens de certaines phrases prononcées par des femmes de mon entourage qui ressemblent un peu à elles. Comme ça, je recoupe quelques souvenirs et voilà. C'est le fait est que là, en l'occurrence, les dialogues me servent. Parce que oui, il faut que je m'appuie sur ce qu'ils disent et la façon dont ils disent. D'ailleurs, en général, même quand je travaille seul, très souvent la matière écrite est déjà prête quand je commence à m'attaquer aux planches, à la mise en page, à la façon d'organiser tout ça. Je m'appuie sur le texte. Pour moi, c'est un des véhicules majeurs.
Il y a, pour ces personnages, souvent des regards très forts. Là aussi, dans votre œuvre, on passait de récits comme Adam Sarlek et la trilogie d'Adam Sarlek, où on avait des regards qui étaient plutôt obstrués. Là, on a deux facettes, celle des regards précis, intenses, et puis les lunettes de Camille, l'entomologiste, qui souvent nous empêche de voir ce qu'il pense. Comment se travaillent ces regards pour vous, Frédéric Bézian ?
Là aussi, c'est un détail qui peut générer une personnalité avec soi. Le fait est que même Géraldine, par exemple, n'a jamais exactement le même regard. C'est très difficile de dessiner des yeux de femme, ne serait-ce que dans le style de dessin que j'ai. Je suis pas Forest et j'arrive pas à faire des yeux de biche comme il les dessinait. Mais pour ce qui est de Camille. L'anecdote, c'est que justement, il se trouve que Mats porte souvent des lunettes de soleil ou de vue, et que j'ai trouvé intéressant que justement, on n'arrive pas exactement à savoir ce qu'il pense, sauf par ses gestes et par ce qu'il dit, alors qu'on ne voit pas son regard. Là, je parle de Camille, hein, je ne parle pas de Mats. J'avais été très marqué il y a très longtemps quand j'en parle à l'imparfait, mais j'étais un fan du cinéma de David Lynch. Et David Lynch disait qu'il était très intéressé par les portraits de gens qui ont les yeux fermés. Parce que ça leur donne une intériorité qu'ils n'ont pas avec les yeux ouverts, c'est pas la même. On a l'impression que c'est plus lâché, bien que plus mystérieux. Et en même temps, le spectateur rêve un peu plus. Parce qu'il est obligé de s'imaginer ce qu'il y a derrière ses yeux. Et c'est quelque chose que j'ai jamais oublié et que j'essaye de. Et avec lequel j'essaye de m'amuser un peu de temps en temps, que ce soit avec des lunettes de soleil ou avec des yeux fermés, des choses comme ça. J'ai beaucoup utilisé des visages avec des yeux fermés dans Radar, par exemple. Avec des gens qui prononcent des phrases assez énigmatiques, les yeux fermés, ce qui est éminemment surréaliste pour une histoire qui se passait dans les années 20, quoi.
Frédéric Bézian, quel est votre rapport au noir, qui est quand même un point fort aussi de cet album. Et puis il y a aussi le blanc du ciel, le vide finalement, c'est une représentation du vide. Comment abordez-vous ces deux tons antagonistes ?
Je ne sais pas, là aussi j'ai beaucoup évolué. Quand j'étais plus jeune, je voulais organiser une espèce de combat entre les deux, tout à fait expressionniste. Hein. Et j'ai tendance à me diriger vers quelque chose de plus impressionniste, justement. De pas en tirer forcément la violence qu'il peut y avoir dans le combat entre les deux. Des ombres ultra découpées, des lumières très crues, et du coup des ombres très contrastées. Mais en arriver à ce qu'il n'y ait plus que du trait et des taches, parce que par exemple en ne retenant d'un personnage que les plis de ses vêtements et quelques lignes. D'abord parce que visuellement je trouve ça très beau, et puis parce que c'est une autre façon de cerner les formes, de suggérer des corps, des poids, des choses comme ça. Et je me suis aperçu que c'était un autre plaisir pour l'œil, déjà le mien. Je ne sais pas pour le lecteur, mais en tout cas le mien. C'est autre chose que de toujours sculpter dans le brut. Certes, c'était amusant pour moi, je me suis vraiment régalé à géométriser l'espace avec des lumières très crues, en opposant des noirs et des blancs sans ambiguïté. Et puis, plus ça va, plus j'essaye d'être un peu plus... comment dire, épicurien dans le trait et dans la tâche, hein, et de jouer un peu avec des choses un peu moins définies, un peu plus moins agressives pour l'œil. Et bon, c'est peut-être la maturité qui vient petit à petit.
On va dire ça comme ça.
Oui, oui, oui.
En tout cas, merci beaucoup Frédéric Bézian pour ces propos qui, avec ceux de Mats, je pense, donnent une vision tout à fait précise des processus de création en œuvre pour réaliser ces papillons qui ne meurent pas de vieillesse. Donc c'est publié par les éditions Casterman. Les 86 pages sont au prix de 24 €. Le livre a été imprimé en France et vous serez présent à la Comédie du Livre ce week-end.
Ouais, si. C'est ça.
Donc vous pouvez rencontrer Mats et Frédéric Bézian.
Non, Mats ne sera pas là.
Mats, alors donc que Frédéric.
Voilà.
Pour ce week-end. Bah, très bonne continuation et très bon séjour à Montpellier.
Merci.
Au revoir Frédéric Bézian.
À bientôt.
La pente, chérie, je la remonte quand je veux, tu m'aimes en monarque des profondeurs, tu m'aimes. Tu m'aimes-tu? M'aimes-tu? Les jours, je les remonte quand tu veux, mm-hmm.
Eh bien, comme je l'évoquais à la fin de cet entretien, la Comédie du Livre, donc c'est 10 jours en mai, elle va battre son plein ce week-end avec notamment un grand nombre de rencontres qui vont démarrer demain, des rencontres dans tous les domaines et aussi dans celui de la bande dessinée. Vous pourrez par exemple rencontrer Étienne Davodeau. Il y a un grand entretien avec Étienne Davodeau à 10h30 à l'espace Albertine Sarrazin. Et puis vous pourrez rencontrer également Emmanuel Lepage et Christian Durieux, deux auteurs-dessinateurs qui ont collaboré avec d'autres scénaristes. Il y aura donc un entretien à l'espace Jean de Bernard. Donc on a une Comédie du Livre qui a eu c'est la 40e, qui a eu des relations assez différentes vis-à-vis de la bande dessinée. Il y a eu une période où c'était vraiment les rencontres des littératures écrites et dessinées. Là, c'est plus tout à fait le cas. Mais il y a quand même un très beau programme. Et vous pourrez donc, comme je le disais, retrouver Frédéric Bézian chez Instant d'éditeur. Il y a différents libraires qui sont présents, et notamment Entrée Libre, qui est cette librairie au cœur de Montpellier avec toute la bande dessinée indépendante. Et un éditeur, puisque Entrée Libre est gérée par les éditions Ses Pieds Sous Terre, et donc avec des auteurs de Six Pieds Sous Terre, bien sûr. Alors, il y a une chose surprenante, c'est que quand on regarde les libraires qui sont présents, à part Entrée Libre, on a beaucoup de marchands de figurines, et c'est une tendance de la bande dessinée qui est un peu... Bon, c'est pas la mienne, voilà, c'est dit. On se retrouve la semaine prochaine avec un entretien avec David Prudhomme pour son très beau Rebetissa, qui est une suite, après plusieurs années, d'un livre sur le Rebetiko, qui s'appelait ainsi, le Rebetiko. Donc ça c'est pour jeudi 22 mai. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade, et merci Marin pour cette technique. Écriture dessinée.